24. J'avais conscience d'avoir accepté une lourde charge en adoptant ce frère insoumis, d'autant plus que je prenais très au sérieux mon serment. Mais le sort nous sépara le surlendemain et mit bientôt entre nous deux la moitié de la terre. Yves prit le large dans l'Atlantique et moi je partis pour le Levant, pour Stamboul. Ce fut seulement 15 mois plus tard, en mai 1877, que nous nous retrouvâmes à bord d'une certaine Médée qui naviguait du côté de la Chine et des Indes. 25. À bord de la Médée, avril 1877. Ça me va comme des guêtres à un lapin, disait Yves d'un air d'enfant, en contemplant ses manches pagodes et sa robe de soie bleue de Birmanie. C'était à Yé, ville de Siam, au bord du golfe de Bengale. Il était assis au fond d'une taverne de mariniers sur un escabeau d'une forme chinoise. Il était très ivre, et quand il eut ainsi souri de se voir vêtu comme un riche d'Asie, ses yeux devinrent sombres et éteints, sa lèvre contractée et dédaigneuse. À ces moments-là, il était capable de tout, comme dans ses anciens jours. À côté de lui, il y avait le grand Kerboul, aussi gabier de misaine, qui venait de se faire apporter 15 verres d'une eau de vie très coûteuse de Singapour, et les avait successivement vidés, puis brisés à coups de poing, avec le terrible sérieux de l'ivresse bretonne. Et les débris de ces 15 verres couvraient la table sur laquelle il venait de poser ses deux pieds. Il y avait encore Barada, le canonnier, toujours beau et tranquille, avec son sourire félin. Les gabiers l'avaient, par exception, invité à leur fête. Et puis le Hélo, Barazère, 6 autres du Grand Mât et 4 du Beaupré, tous carrants avec des airs superbes dans des robes asiatiques. Il y avait même le Hir l'Idiot, un de l'île de Saint, qu'ils avaient amené pour rire et qui buvait des ordures délayées dans son bol de rhum. Enfin 2 Forbans, 2 Black Bulls, déserteurs de tous les pavillons, ancienne connaissance d'Yves, qui les avait ce soir-là ramassés tendrement sur la plage. C'était pour fêter Saint Épissoire, patronne des gabiers, qu'ils s'étaient rassemblés, et l'usage me commandait d'y paraître avec eux comme officier de manœuvre. Depuis 1 an, ils n'avaient pas mis le pied à terre, et le commandant, qui était content de son équipage, leur avait permis à eux, les meilleurs, de célébrer comme en France l'anniversaire de cette grande sainte. Il avait choisi cette ville de Yé parce qu'elle lui semblait pour nous la moins dangereuse, le peuple y étant plus inoffensif qu'ailleurs et plus maniable. Dans cette salle qui était vaste et basse, avec des murailles en papier, il y avait en même temps que nous une bande de matelots de commerce américains qui buvaient avec des filles rousses à longues dents, échappées des lupanards de l'Inde anglaise. Et ces intrus gênaient les gabiers qui voulaient être seuls et le leur donnaient à entendre. 11 heures. Les bougies venaient d'être renouvelées dans les girandoles de couleur, tandis qu'au dehors, la ville siamoise s'endormait dans la nuit chaude. Ici, on sentait qu'il y avait des coups de poing dans l'air, que les bras avaient besoin de se détendre et de frapper. « Qu'est-ce que c'est ? » dit un des Américains qui avait l'accent de Marseille. « Qu'est-ce que c'est que ces Français qui viennent ici faire la loi ? » Et celui-là qui est avec eux, moi, le plus jeune de tous, qui a l'air de poser et de les commander. Celui-là, dit Yves, faisant mine de ne pas seulement daigner tourner la tête, celui-là, faudrait qu'il aurait des moustaches, celui qui y toucherait. Celui-là, dit Barada, qui il est? Attendez donc, nous allons vous l'apprendre sans qu'il ait besoin de se déranger, et vous allez voir, enfant, si ça va reluire. Yves leur avait déjà lancé son escabeau de forme chinoise, qui venait de crever le mur à toucher leur tête, et Barada, d'un premier coup de poing, en avait chaviré 2. Les autres, renversés sur les premiers, 12 par terre, Kerboul assommé dans le tas, à grands coups de table, éparpillant sur les ennemis les débris de ses 15 verres. Alors on entendit au dehors des gongs et des sonnettes, des frôlements de soie, de petits rires aigres de femmes. Et les danseuses entrèrent. Les gabiers s'étaient commandés des danseuses. Ils s'arrêtèrent en les voyant paraître, car elles étaient étranges. Peintes comme des images chinoises, couvertes d'or et de pierres brillantes, les yeux à demi fermés, pareilles à de petites fentes blanches, elles s'avançaient au milieu de nous, avec des sourires de femmes mortes, tenant leurs bras en l'air et écartant leurs doigts grêles, dont les grands ongles étaient enfermés dans des étuis d'or. En même temps, des odeurs de baume et d'encens. On brûlait des baguettes dans un réchaud, et une fumée alanguissante se répandait comme un nuage bleu. Les gongs sonnaient plus fort, et ces fantômes dansaient, gardant leurs pieds immobiles, exécutant une espèce de mouvement rythmé du ventre avec des torsions de poignets. Toujours le sourire figé, le regard blanc des cadavres. Il semblait que cela seul eût vie en elles. Ces gros reins cambrés de goules qu'agitaient les trémoussements lascifs, et puis, au bout des bras raidis, ces mains écartées, inquiétantes, qui se tordaient. Le héros, qui depuis longtemps dormait par terre, entendant les gongs sonner si fort, se réveilla et eut peur. « T'es, pardi, les danseuses !» lui expliqua Barada à Gouailleur, riant de lui. « Ah oui, les danseuses !» Il s'était levé, et de sa large patte, qui cherchait en l'air, incertaine, il essayait de rabattre ses bras tendus et ses griffes dorées, balbutiant, la langue épaisse. « Faut pas, figure de paravent, faut pas montrer les mains comme ça, c'est vilain. Je croyais que c'était le diable. » Et il retomba par terre, endormi. Barada, qui, lui, avait dépassé ce soir sa dose habituelle, leur reprochait d'avoir la peau jaune et leur parlait de la sienne qui était blanche. « Blanche, blanche !» Il en rabâchait de cette blancheur qu'il s'exagérait beaucoup du reste, et voulait maintenant la leur faire voir. D'abord son bras, puis sa poitrine. Il disait « Tiens, regarde si c'est vrai !» Elles, les poupées jaunes d'Asie, continuaient leurs lents et lugubres trémoussements de bêtes, gardant le mystère de leur rictus et de leurs yeux blancs tirés vers les tempes. Et à présent, lui, Barada, complètement nu, dansait devant elle, ayant l'air d'un marbre grec qui aurait pris vie tout à coup pour quelque bacchanale antique. Mais les Birmanes, montés comme des automates, dansèrent longtemps, longtemps, plus longtemps que lui. Et après, à la fin de la nuit, quand les gongs eurent fait silence, les matelots furent pris de frayeur à l'idée que ces femmes, payées pour leur plaisir, les attendaient. Les uns après les autres, ils s'en allèrent du côté de la plage, n'osant pas les approcher. 26. C'était le grand ami d'Yves, ce Barada, qui s'était débrouillé pour repartir une troisième fois sur le même navire que nous. Enfant naturel poussé à la belle étoile sur les quais de Bordeaux. Très vicieux, avec un bon cœur. Plein de contrastes, certaines notions premières de respect humain lui manquaient totalement. Son honneur à lui, c'était d'être plus beau que les autres, plus leste et plus fort, plus débrouillard aussi. Débrouillard et débrouillage sont deux mots qui résument presque à eux seuls toute la marine. Ils n'ont pas d'équivalent académique. Moyennant salaire, ce Barada professait à bord tous les genres d'exercices en usage parmi les matelots. Boxe, canne, chaussons, avec la gymnastique par-dessus le marché, et le chant et la danse. Souple comme un clown. L'ami de tous les Hercules de foire, posant chez des sculpteurs, luttant pour de l'argent chez des saltimbanques. Au premier rang dans les fêtes de matelots, mais toujours un invité, buvant beaucoup, mais ne payant pas, buvant beaucoup, mais jamais trop, et passant au milieu de toutes les bacchanales, aussi droit, aussi souriant, aussi frais. Il avait à tout des reparties gouailleuses que d'autres n'auraient pas trouvées. L'accent gascon les rendait plus drôles, et puis il terminait ses phrases par une espèce de son à lui, un demi-rire qui résonnait dans sa poitrine profonde comme se recommandent des lions qui bâillent. D'ailleurs, bon, reconnaissant, serviable pour tous et fidèle à ses amis. N'ayant jamais qu'une parole et répondant toujours avec la franchise renversante des enfants terribles. Faisant argent de tout, par exemple, même de sa beauté à l'occasion. Et cela, naïvement, avec sa bonhomie de sauvage. Tellement que les autres, qui le savaient, lui pardonnaient comme à un plus enfant qu'eux. Yves se bornait à dire « Oh, ça n'est pas joli, Barada, je t'assure, et ne lui en voulait pas non plus. » Tout cela s'amassait, se condensait en grosses pierres d'or cousues contre ses reins dans une ceinture de cuir. Et c'était pour en arriver, après son rengagement de 5 ans, à épouser une petite Espagnole qui faisait des modes à Bordeaux, dans un beau magasin du passage Sainte-Catherine. Petite ouvrière très raffinée, dont il portait toujours sur lui une photographie de profil, avec des cheveux coupés sur le front et une élégante toque en fourrure, ornée d'une aile d'oiseau. « Que voulez-vous ? C'est une amitié d'enfance, » disait-il, comme s'il eût été nécessaire de s'en excuser. Et, en attendant cette petite fiancée, il s'abandonnait à beaucoup d'autres, par intérêt souvent, quelquefois aussi par vraie bonté d'âme, à la manière d'Yves, pour ne pas faire de la peine. 27. En mer, mai 1877. Depuis 2 jours, la grande voix sinistre gémissait autour de nous. Le ciel était très noir. Il était comme dans ce tableau où Poussin a voulu peindre le déluge. Seulement toutes les nuées remuaient, tourmentées par un vent qui faisait peur. Et cette grande voix s'enflait toujours, se faisait profonde, incessante. C'était comme une fureur qui s'exaspérait. Nous nous heurtions dans notre marche à d'énormes masses d'eau qui s'enroulaient en volutes à crête blanche et qui passaient avec des airs de se poursuivre. Elles se ruaient sur nous de toute leur force. Alors c'était de secousses terribles et de grands bruits sourds. Quelquefois la Médée se cabrait, leur montait dessus, comme prise, elle aussi, de fureur contre elle. Et puis elle retombait toujours, la tête en avant, dans des creux traîtres qui étaient derrière. Elle touchait le fond de ces espèces de vallées qu'on voyait s'ouvrir, rapides, entre de hautes parois d'eau. Et on avait hâte de remonter encore, de sortir d'entre ces parois courbes, luisantes, verdâtres, prêtes à se refermer. Une pluie glacée rayait l'air en longues flèches blanches, fouettait, cuisait comme des coups de lanière. Nous nous étions rapprochés du nord, en nous élevant le long de la côte chinoise, et ce froid inattendu nous saisissait. En haut, dans la mâture, on essayait de serrer les huniers, déjà au bas-ris. La cape était déjà dure à tenir, et maintenant il fallait, coûte que coûte, marcher droit contre le vent, à cause de terres douteuses qui pouvaient être là, derrière nous. Il y avait 2 heures que les gabiers étaient à ce travail. Aveuglés, cinglés, brûlés par tout ce qui leur tombait dessus, gerbes d'écume lancées de la mer, pluie et grêle lancées du ciel. Essayant, avec leurs mains crispées de froid qui saignait, de crocher dans cette toile raide et mouillée qui ballonnait sous le vent furieux. Mais on ne se voyait plus, on ne s'entendait plus. On en aurait eu assez rien que de se tenir pour n'être pas emporté, rien que de se cramponner à toutes ces choses remuantes, mouillées, glissantes d'eau, et il fallait encore travailler en l'air sur ces vergues qui se secouaient, qui avaient des mouvements brusques, désordonnés, comme les derniers battements d'ailes d'un grand oiseau blessé qui râle. Des cris d'angoisse venaient de là-haut, de cette espèce de grappe humaine suspendue. Cris d'hommes, cris rauques, plus sinistres que ceux des femmes, parce qu'on est moins habitué à les entendre. Cris d'horrible douleur. Une main prise quelque part, des doigts accrochés, qui se dépouillaient de leur chair ou s'arrachaient, ou bien un malheureux, moins fort que les autres, crispé de froid, qui sentait qu'il ne se tenait plus, que le vertige venait, qu'il allait lâcher et tomber. Et les autres, par pitié, l'attachaient, pour essayer de l'affaler jusqu'en bas. Il y avait 2 heures que cela durait. Ils étaient épuisés et ne pouvaient plus. Alors on les fit descendre pour envoyer à leur place ceux de bâbord qui étaient plus reposés et qui avaient moins froid. Ils descendirent, blêmes, mouillés, l'eau glacée leur ruisselant dans la poitrine et dans le dos, les mains sanglantes, les ongles décollés, les dents qui claquaient. Depuis 2 jours, on vivait dans l'eau, on avait à peine mangé, à peine dormi, et la force des hommes diminuait. C'est cette longue attente, cette longue fatigue dans le froid humide, qui sont les vraies horreurs de la mer. Souvent, les pauvres mourants, avant de rendre leur dernier cri, leur dernier hoquet d'agonie, sont restés des jours et des nuits trempés, salis, couverts d'une couche boueuse de sueur froide et de sel, d'un enduit de mort. Le grand bruit augmentait toujours. Il y avait des moments où ça sifflait aigre et strident, comme dans un paroxysme d'exaspération méchante. Et puis d'autres où cela devenait grave, caverneux, puissant comme des sons immenses de cataclysme. Et on sautait toujours d'une lame à l'autre, et à part la mer qui gardait encore sa mauvaise blancheur de bave et d'écume, tout devenait plus noir. Un crépuscule glacial tombait sur nous. Derrière ces rideaux sombres, derrière toutes ces masses d'eau qui étaient dans le ciel, le soleil venait de disparaître parce que c'était l'heure. Il nous abandonnait, et il allait falloir se débrouiller dans cette nuit. Yves était monté avec les bâbords d'ailes dans ce désarroi de la mâture, et alors je regardais en haut, aveuglé moi aussi, ne percevant plus que par instant la grappe humaine en l'air. Et tout à coup, dans une plus grande secousse, la silhouette de cette grappe se rompit brusquement, changea de forme. Deux corps s'en détachèrent et tombèrent les bras écartés dans les volutes mugissantes de la mer, tandis qu'un autre s'aplatit sur le pont, sans cri, comme serait tombé un homme déjà mort. « Encore le marchepied cassé !» dit le maître de quart en frappant du pied avec rage. « Du filin pourri qu'ils nous ont donné dans ce sale port de Brest, le grand Carboul à la mer. Le second qui est-ce ?» D'autres, raccrochés par les mains à des cordages, un instant balancés dans le vide, remontaient maintenant à la force des poignets, en se dépêchant, très vite comme des singes. Je reconnus Yves, un de ceux qui grimpaient, et alors je repris ma respiration, que l'angoisse avait coupée. Ceux qui étaient à la mer, on jeta bien des bouées pour eux, mais à quoi bon? On aimait encore mieux ne plus les voir reparaître, car alors, à cause de ce danger de tomber en travers de la lame, on n'aurait pas pu s'arrêter pour les reprendre, et il aurait fallu avoir ce courage horrible de les abandonner. Seulement, on fit l'appel de ceux qui restaient pour savoir le nom du second qu'on avait perdu. C'était un petit novice très sage que sa mère, une veuve déjà âgée, était venue recommander au maître avant le départ de France. L'autre, celui qui s'était écrasé sur le pont, on le descendit tant bien que mal, à quatre, en le faisant encore tomber en route. On le porta dans l'infirmerie qui était devenue un cloaque immonde, où bouillonnaient deux pieds d'eau boueuse et noire, avec des fioles brisées, des odeurs de tous les remèdes répandus. Pas même un endroit où le laisser finir en paix. La mère n'avait seulement pas de pitié pour ce mourant, elle continuait de le faire danser, de le sauter de plus belle. Il avait retrouvé une espèce de son de la gorge, un râlement qui sortait encore, perdu dans tous les grands bruits des choses. On aurait peut-être pu le secourir, prolonger son agonie avec un peu de calme. Mais il mourut là, assez vite, entre les mains d'infirmiers devenus stupides de peur, qui voulaient le faire manger. 8 heures du soir. À ce moment, la charge du car était lourde, et c'était à mon tour de la prendre. On se tenait comme on pouvait. On ne voyait plus rien. On était au milieu de tant de bruit que la voix des hommes semblait n'avoir plus aucun son. Les sifflets d'argent, forcés à pleine poitrine, perçaient mieux comme des chants flûtés de tout petits oiseaux. On entendait des coups terribles frappés contre les murailles du navire comme par des béliers énormes. Toujours les grands trous qui se creusaient, tout béants, partout. On s'y sentait jeté, tête baissée, dans la nuit profonde. Et puis une force vous heurtait d'une poussée brutale, vous relançait très haut en l'air, et toute la Médée vibrait, en ressautant, comme un monstrueux tambour. Alors on avait beau se cramponner, on se sentait rebondir, et vite on se recramponnait plus fort, en fermant la bouche et les yeux, parce qu'on devinait d'instinct, sans voir, que c'était le moment où une épaisse masse d'eau allez balayer l'air et peut-être vous balayer aussi. Toujours cela recommençait, ces chutes en avant, et puis ces sauts avec l'affreux bruit de tambour. Et après chacun de ces chocs, il y avait encore les ruissellements de l'eau qui retombaient de partout, et 1000 objets qui se brisaient, 1000 caissons qui roulaient dans l'obscurité, tout cela prolongeant en queue sinistre l'effroi du premier grand bruit. Et les gabiers, et mon pauvre Yves, que faisait-il là-haut? Les mâts, les vergues, on les apercevait par instants dans le noir, en silhouette, quand on pouvait encore regarder à travers cette douleur cuisante que causait la grêle. On apercevait ces formes de grandes croix à deux étages, comme les croix russes, agitées dans l'ombre avec des mouvements de détresse, des gestes fous. « Faites-les descendre, » me dit le commandant, qui préférait le danger de se hunier non serré à la peur de perdre encore des hommes. Je le donnai vite, avec joie, cet ordre-là. Mais Yves, d'en haut, me répondit, à l'aide de son sifflet, que c'était presque fini. Plus que la jarretière du poing, qui était cassée, à remplacer par un bout quelconque, et puis ils allaient tous descendre, ayant serré leur voile, achever leur ouvrage. Après, quand ils furent tous en bas et au complet, je respirai mieux. Plus d'hommes en l'air, plus rien à faire là-haut, plus qu'à attendre. Ah, alors je trouvais qu'il faisait presque beau, qu'on était presque bien sur cette passerelle, à présent qu'on m'avait enlevé le poids si lourd de cette inquiétude.